Chers auditeurs, bonjour, me revoilà. Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous aussi. Alors j'espère aussi que vous avez passé de très bonnes vacances, qu'il n'y a pas eu de problème, voilà, qu'il n'y a eu que du soleil. Aujourd'hui, je vous ai fait un petit choix, voilà, de musique douce, de musique plus rythmée, voilà, pour recommencer la rentrée sur de bonnes bases, on va dire. Alors du coup, on va commencer avec un compositeur, Richard Strauss, qui est né à Munich en 1864. Son père a le titre de Kammermusiker, c'est-à-dire musicien personnel à la cour de Louis II de Bavière. Et il est corniste solo de l'orchestre de l'Opéra de Munich. Corniste, ça veut dire qu'il joue du cor. Donc, par chance, lui ne voit pas d'inconvénient à ce que son fils devienne lui aussi musicien, parce que vous vous rappelez, il y a eu beaucoup, beaucoup de musiciens dont je vous ai parlé. Ils n'étaient pas très chauds au fait que leurs enfants veuillent faire de la musique. Hein. Ce n'était pas très bien vu à l'époque. Je ne sais pas si à notre époque c'est très bien vu, mais enfin, bon, c'est quand même plus facile. Dieu merci. L'empreinte sonore de l'instrument du cor a marqué durablement Richard Strauss, parce que du coup il l'utilisera beaucoup dans ses compositions par la suite. Sa précocité s'affirme de façon évidente. Ça fait un peu un parallèle avec le jeune Wolfgang Amadeus Mozart, voyez. Il est exceptionnel de commencer à composer à 6 ans et d'être en mesure de diriger un orchestre à 9 ans. Richard devient pianiste et il acquiert aussi un bon niveau en violon. À 18 ans, il apprend les techniques de l'orchestre, voilà, parce que c'est quand même particulier, et il est devenu premier violon dans l'orchestre amateur que dirigeait son papa. Il ne faut que quelques années pour que tous ces éléments trouvent leur pleine maturité et ont forgé son style qui est complètement unique. Alors je voudrais vous faire écouter un extrait de « Ainsi parlait Zarathoustra ». C'est un poème symphonique composé par Richard Strauss entre février et août 1896, librement inspiré du poème philosophique « Ainsi parlait Zarathoustra » du philosophe Friedrich Nietzsche. Son introduction grandiose a été rendue célèbre par sa reprise dans la musique de films de science-fiction. Vous voyez ce que je veux dire ? 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick et de la Metro-Goldwyn-Mayer. Alors, vous voyez, on va commencer vraiment bien, je trouve, cette reprise de l'année scolaire, on va dire. Donc, ainsi parlait Zarathoustra. Vous avouerez que c'est vraiment une introduction magistrale. En plus, avec l'orgue à la fin, c'est vraiment extra. Après Richard Strauss, je vous emmène dans le domaine de Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, qui était plus au XXe siècle, puisqu'il est né en 1935. Une de ses compositions, vous le connaissez certainement, c'était le Carnaval des animaux, voilà, en 14 mouvements, qui s'inscrit en fait dans la tradition française du pastiche musical, avec une description animalière. Cette musique, elle a été composée justement pour aussi permettre à des enfants d'écouter, d'apprécier de la musique. Alors, on ne va pas passer, bien sûr, tout le Carnaval des animaux, parce que sinon, je ne pourrais plus vous donner d'autres extraits de compositeurs que je vous ai choisis. Donc, on va s'occuper de l'aquarium. Eh bien, l'aquarium, il évoque le ballet des poissons, ben, comme son nom l'indique, avec des notes de piano comme des bulles, et surtout un procédé totalement magique de Camille Saint-Saëns. Chaque note du thème, jouée par les violons et la flûte dans les aigus, est répétée par un glass harmonica au son cristallin. Le glass harmonica, alors là c'est compliqué de vous dire ça parce que j'ai pas d'image hein, forcément à la radio, mais c'est un peu le système, vous savez, des verres qu'on va remplir différemment et qui vont en fait donner des sons différents. Et du coup, ces sons un peu cristallins justement vont évoquer le scintillement de l'eau. Et des écailles de ces animaux muets. Alors il y a Francis Blanche qui avait écrit un texte justement sur l'aquarium et il disait « De la baleine à la sardine et du poisson rouge à l'anchois, dans le fond de l'eau, chacun dîne d'un plus petit que soi ». Eh bien, nous allons rester à côté de cet aquarium plutôt magique. Et c'était interprété par l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. Je vous emmène maintenant de nouveau un petit peu en arrière, au 19e siècle, avec Richard Wagner, qui a écrit La Valkyrie. La Valkyrie, c'est le deuxième des quatre drames lyriques qui constituent l'anneau du Nibelung de Richard Wagner. Le livret est rédigé par Richard Wagner et la musique, il l'a composée aussi un peu plus tard, vers 1854-56. On retrouve dans le livret de nombreuses références aux mythologies germaniques et nordiques qui sont les principales sources de l'inspiration. Donc je vais vous donner un petit extrait justement de cette Valkyrie qui va vous faire penser certainement à un film qui s'appelle Apocalypse Now.
Thank you.
Eh bien voilà, c'est fini pour le moment. C'était donc un extrait de la Valkyrie de Richard Wagner. Je vous emmène maintenant avec un compositeur russe, Sergei Rachmaninov, compositeur, également pianiste et chef d'orchestre. Il est né à Semyonov en Russie et il est mort à Beverly Hills aux États-Unis où il était parti habiter là-bas. Son œuvre est surtout écrite pour le piano. Elle reste attachée à une tradition romantique. Elle a connu quand même une influence très prononcée de Tchaïkovski. Alors il y a un concerto pour piano qui a connu un triomphe quand il a été créé. C'est son deuxième concerto pour piano. Et là, je voudrais vous offrir tout simplement l'adagio sostenuto de ce concerto numéro 2 de Rachmaninov. Ce sera interprété au piano par Mikhaïl Roudy et l'orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg qui va bien entendu l'accompagner. C'était le magnifique deuxième mouvement du concerto, du deuxième concerto d'ailleurs pour piano de Rachmaninov. Alors là, je vous ai choisi une œuvre de Mozart. C'est un trio, en fin de compte, pour trois personnes, bien sûr. C'est violon, alto et violoncelle. Ça s'appelle le trio Puschberg. Alors pourquoi ? Parce qu'il avait été dédié par Mozart, écrit et dédié par Mozart, bien sûr, à Johann Michael Puschberg, un frère en maçonnerie. Alors attention, maçonnerie, c'est pas les travaux publics, c'était parce qu'il faisait partie des francs-maçons à l'époque. Voilà, et cette personne consentait généreusement des prêts à Mozart, donc quand il en avait besoin. Donc ça a été très très une grande amitié, on va dire. Voilà. Et la création a eu lieu d'ailleurs à Dresde en 1789 avec Anton Teiber au violon, Mozart qui jouait de l'alto et Antonin Kraft au violoncelle. C'était un moment où Mozart faisait une tournée en Allemagne jusqu'à Berlin. Donc moi je vais vous proposer en fin de compte la version avec Augustin Dumay au violon, Gérard Cosset à l'alto et Gary Hoffmann au violoncelle pour ce trio menuetto du trio Divertimento Puschberg.
Thank you.
Voilà, c'était le très, très élégant, j'ai envie de dire, menuet du trio Divertimento Puschberg de Mozart. Je vous emmène maintenant avec Vivaldi. Vivaldi qui a composé entre 1730 et 1731 un concerto pour luth en ré majeur. C'est l'une des quatre œuvres écrites par le compositeur pour le luth. En fait, il avait quitté récemment sa chère Venise au début des années 1730 dans l'espoir de devenir un compositeur impérial à la cour de l'empereur Charles VI. Aussi, il s'installe à Vienne. C'est durant cette période de changement et de transition que Vivaldi compose son célèbre concerto pour luth. Mais l'œuvre est courte, elle en trois mouvements, et elle n'a pas été publiée du vivant du compositeur. Alors je vous en propose aussi un extrait donc, qui est interprété par l'Academy of St. Martin in the Fields. Thank you. Vivaldi nous a composé la... C'est un largo, hein, c'est le deuxième mouvement, d'une grande sérénité, je trouve. Hein, voyez, on est tout à fait zen après. Alors, il y a quelque chose après qui va vous réveiller certainement, puisque je vous apporte de la musique de Paul Dukas. Voilà, Paul Dukas, il avait fait une œuvre, un poème symphonique. C'est un genre qui est apparu dans le milieu du 19e siècle, dans lequel la composition était liée directement à un thème, un personnage, une légende, un poème. Avide de lecture, en fait, Dukas s'est inspiré d'une ballade de Goethe contant l'aventure d'un jeune sorcier dépassé par la magie qu'il utilise. Voyez où je veux venir. Créé le 18 mai 1897 à Paris sous sa direction, l'œuvre baptisée Scherzo symphonique connaît un succès fulgurant. L'adaptation de Walt Disney, dans Fantasia, a encore amplifié sa popularité. Alors bien sûr, je vous propose un extrait de L'apprenti sorcier de Paul Dukas. Thank you. Eh bien voilà, cette musique de Paul Dukas, l'apprenti sorcier, c'était un petit clin d'œil à vos enfants, aux petits-enfants, je ne sais pas s'ils étaient là. Eh bien, on va continuer cette fois. Alors, attendez voir, moi j'ai un petit problème, voyez-vous, parce que voilà, il fallait que j'arrête aussi mon CD de Paul Dukas. Alors maintenant, je veux vous emmener voir Maurice Ravel. Maurice Ravel, il a écrit des œuvres. Miroir, qui renvoie à l'idée d'image, de miroir, de l'univers, de l'expérience humaine. Et parmi les images de la nature de ce cycle, un morceau s'appelle « Une barque sur l'océan » et a été considéré comme la contrepartie pianistique, je dirais, de l'œuvre orchestrale « La mer » composée par Debussy à peu près à la même époque. Les vastes arpèges, vous verrez, rythmés, les arpèges, ça fait un peu comme des vagues, on va dire, voilà, composent une scène de genre maritime, du coup, c'est tout à fait singulier. Et du coup, vous avez l'image un peu stylisée d'une barque livrée au gré du vent et des vagues, voilà, ça va vous aider. Et du coup, eh bien, alors, allons écouter cette œuvre, Une barque sur l'océan, qui a été enregistrée par l'Orchestre de Paris, dirigée par Jean Martinon. Eh bien voilà, c'était justement une barque sur l'océan. On s'y croirait vraiment. Et du coup, ben, pour finir, je vous ai fait une petite surprise. Vous allez voir quelque chose que vous connaissez parce que je voulais finir sur cette air de la mer. Alors, vous allez voir, j'en vois tout de suite. Voilà, parce qu'on a beaucoup parlé, en fin de compte, du Titanic au mois de juin, avec malheureusement le petit sous-marin qui allait voir, voilà, avec des chercheurs et pas que. Hein, donc, voilà, on était avec une barque sur l'océan, et ben maintenant, on est sur le Titanic, mais tout va bien pour nous, nous ne coulerons pas. Alors, il me reste à vous souhaiter une très très bonne journée, une bonne rentrée scolaire pour vos enfants et petits-enfants, et je vous retrouverai, j'espère, avec bonheur mercredi prochain. À bientôt !